Il y a des plantes chez moi. Je ne leur prête pas souvent attention. Mais parfois elles m'intriguent. Et si mon ficus essayait de me parler ?
A priori pas, il n'y a pas d'intérêt à un ficus de vous parler.
En effet, et il faut dire qu'il doit un peu me faire la tête, mon ficus. J'ai pas vraiment la main verte. Et si une plante survit dans ma maison, c'est surtout par chance. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que si les plantes ne me parlent pas à moi, le saviez-vous, vous, qu'elles communiquent entre elles ? En fait, elles échangent tout un tas d'informations, notamment des cris très particuliers de détresse, d'une feuille à l'autre, mais aussi d'une plante à l'autre. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme le mystérieux langage des plantes en grande réponse scientifique et très tactique. Microsciences, un podcast de la RTS. Philippe Raymond est chercheur, professeur au département de physiologie végétale de l'Université de Lausanne. Alors bon, c'est vrai, moi je dis que les plantes parlent, notre scientifique du jour nuance.
On peut parler d'échange d'informations chimiques principalement. Un, les plantes sont capables de produire de l'information, et deux, d'autres plantes ou d'autres parties d'une plante sont capables de percevoir cette information et de réagir.
Et oui, échange d'informations. Et vous allez me dire, pourquoi faire ? Mais pensez-y, vous êtes une plante, vous ne pouvez pas prendre vos racines à votre cou pour partir en courant lorsque vous êtes agressé. Non mais imaginez le stress. Vous êtes là, tranquille, avec vos jolies feuilles toutes tendres. Une chenille vous voit, elle ouvre ses mâchoires aiguisées. Et qu'est-ce que vous faites ? Non, pas vous, vous, Philippe Raymond.
Première chose, vous allez vous défendre rapidement contre cet insecte. Donc vous allez fabriquer des composés toxiques. Un poison qui va essayer d'empêcher l'insecte de se nourrir. Donc vous produisez des molécules très toxiques, vous produisez des protéines qui empêchent l'insecte de digérer. Et tout cet arsenal de défense chimique lui permet à la plante de stopper un petit peu l'attaque de cette chenille.
Donc là, j'ai paré à l'urgence, j'essaye d'empoisonner la chenille. Mais elle va aller ailleurs, grignoter une autre feuille, non ?
Si vous avez envoyé un message chimique à la feuille voisine, celle-ci sera préparée à l'attaque. Et c'est ce qu'on observe, c'est que les feuilles voisines sont plus propices à se défendre en faisant exactement la même réaction, mais beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement.
Et là, vous comprenez l'avantage de pouvoir pousser des cris silencieux quand on a une plante ?
Puis en plus, ce que les chercheurs ont découvert, c'est que les plantes émettent des composés volatiles qui vont attirer les ennemis de leurs ennemis. Des petites guêpes parasitiques qui viennent parasiter la chenille qui est en train de manger la plante. Donc elles appellent à l'aide.
Un appel à l'aide moléculaire, silencieux. Mais un appel à l'aide quand même.
Ces guêpes parasitiques ont besoin d'un insecte pour se développer. Donc elles pondent leurs œufs dans cet insecte en le tuant. Eh ben, elles ont appris à reconnaître un message envoyé par une plante qui est attaquée par l'hôte qu'elles recherchent.
C'est pas mal, ça. Non seulement la plante se défend contre l'envahisseur, mais en plus, elle se débrouille pour faire venir des renforts. Et tout ça grâce à des molécules envoyées ça et là. Philippe Raymond cherche à décrypter justement le vocabulaire chimique des plantes. Sa souris de laboratoire à lui, c'est une espèce végétale très spécifique.
C'est une petite plante qui s'appelle Arabidopsis thaliana, l'arabette des dames, une petite mauvaise herbe, mais qui est un organisme modèle pour les biologistes des plantes.
Arabette des dames. Ah oui, on l'a tous déjà vue, cette petite plante. Elle pousse souvent entre les pavés, vous savez, au bord des routes. Elle a des feuilles en rosette, un peu comme de la salade de mâche. Une longue tige d'une vingtaine de centimètres de hauteur et des petites fleurs blanches d'un demi-centimètre environ. Ah non, non, elle ressemble absolument pas à une pâquerette. L'arabette des dames émet des molécules lorsqu'elle est agressée pour prévenir les feuilles voisines ou les plantes voisines de ce qui lui arrive. Alors évidemment, il n'existe pas de dictionnaire plante-humain. Il faut donc procéder autrement.
Donc on les met en présence d'une chenille, par exemple, herbivore, puis après quelques heures, quelques jours, on regarde comment la plante a répondu. Et puis on peut, par toutes sortes de techniques moléculaires ou chimiques, on peut mesurer la présence de composés de défense. Donc on a vu, ah oui, la plante a réagi. Puis après on peut se demander, mais à quoi ils servent ces produits de défense? Si on les enlève, qu'est-ce qui se passe? Donc on est capable d'enlever un gène, de muter un gène, et puis d'empêcher la plante de se défendre. On lui coupe la signalisation, si vous voulez. Et ce qu'on observe, c'est qu'elles sont beaucoup plus faibles et dévorées lorsqu'on enlève la capacité de reconnaître ou de répondre. On a observé que les plantes sont même capables de détecter, par exemple, des œufs d'insectes. Donc avant même qu'un œuf ait donné naissance à une petite chenille, la plante anticipe un danger.
Oui, oui, vous avez bien entendu. L'arabette des dames détecte des œufs d'à peine quelques millimètres sur ses feuilles. Ce sont de tout petits œufs posés sur le revers de la feuille. L'arabette sait qu'ils sont là. Il aura fallu 10 ans aux chercheurs pour comprendre quel composant de l'œuf fait tressaillir l'arabette des dames. Et l'arabette se défend.
Ça, c'était une découverte qu'on a trouvée relativement formidable. C'est que non seulement la plante détecte les œufs puis essaie de s'en débarrasser, mais en plus, elle envoie des signaux dans toute la plante et même dans les plantes voisines pour dire « Attention, des œufs ont été déposés sur mes feuilles, il faut que je me défende. » Et elles se défendent contre toutes sortes de pathogènes infectieux, que ce soit des bactéries, des champignons, des oomycètes. Donc en plus, elle anticipe, si vous voulez, le fait qu'elle va peut-être être infectée plus tard. Parce que si des chenilles commencent à manger les feuilles, ça fait des trous, puis dans ces trous, il y a plein de petits organismes pathogènes qui peuvent entrer. Donc c'est comme si elle anticipait un danger général contre toutes sortes d'infections et qu'elle se préparait à cette menace. Et elle le fait non seulement en avertissant les autres feuilles du même organisme, mais les plantes voisines. Donc on a vu que un signal se déplaçait dans le sol et alertait des plantes voisines.
Et là, moi, si j'étais une plante, j'ose à peine l'avouer. Mais je ne suis pas sûre que je préviendrai mes voisines si je me fais manger. Question d'image. Mais aussi, après tout, parce que si la chenille peut aller un peu plus loin, manger quelqu'un d'autre, ça m'arrangerait, non?
On peut le voir sous différents angles. Le premier angle, c'est que si la voisine est de votre même famille, ben vous allez protéger votre matériel génétique qui est proche. Si votre voisine est une compétitrice, ça pose un problème, parce que pourquoi alerter un compétiteur qui va peut-être avoir un avantage d'écouter aux portes et de recevoir ces messages?
Exactement. Halte aux voisins et aux voisines trop furteurs et qui de surcroît convoitent mon terrain.
C'est une sorte de coup à mettre en avant pour que tout l'environnement dans lequel on vit soit bien défendu, parce qu'on doit se rappeler que les plantes, elles ne peuvent pas bouger. Donc elles vont faire tout ce qu'elles peuvent pour que l'environnement où elles poussent, où elles vivent, soit le moins dangereux possible. Donc c'est peut-être ça aussi.
Ah oui, j'ai réussi à chasser la chenille. Et j'ai tout intérêt à ce que mes voisines s'en débarrassent aussi.
Voilà, si la voisine se fait manger, ben y a des chances que la chenille vienne chez moi. Donc si j'avertis la voisine qui se défend déjà, ben ça fait une sorte de contre-attaque à tous ses ennemis.
Ces échanges silencieux et invisibles d'informations sont nombreux entre les plantes. La coopération est courante, en fait, dans le monde végétal. Certaines espèces d'arbres s'entraident.
Ben, les arbres, c'est des plantes.
C'était important de le préciser, vu mon talent pour le jardinage. Au moyen de leurs racines, les arbres se répartissent les nutriments nécessaires à leur développement. D'autres arbres évitent de mélanger leurs branches des cimes, soit pour laisser passer la lumière, soit pour éviter que les parasites ne se propagent. Et il paraît même que les acacias discutent entre eux pour éviter de se faire brouter par les girafes dans la savane.
Les acacias, c'est des grands arbres, mais les girafes sont capables de manger les feuilles de ces acacias. Donc c'est un problème des arbres. Donc ces arbres ont appris à fabriquer des composés toxiques, qui sont des tanins, et qui empêche un petit peu les girafes de bien digérer les feuilles. Ces arbres, comme les plantes annuelles, ont appris à envoyer des signaux dans l'atmosphère lorsqu'ils étaient mangés par des girafes. et les arbres voisins, tout à coup, accumulaient des tanins avant que les girafes arrivent pour les consommer. Donc, c'est une sorte de défense et d'alerte. Et puis, certains chercheurs disaient que les girafes avaient compris que les arbres envoyaient des signaux aux arbres voisins. Et vu que c'était par le vent, ben, ces girafes mangeaient les arbres contre le vent. Donc, elles passaient d'un arbre à l'autre contre le vent, ce qui fait que les signaux passaient derrière elles et pas devant elles. Elles n'avaient pas le temps d'avertir les plantes voisines. C'est intéressant. Peut-être que certaines girafes ont appris à se nourrir comme ça, mais ça n'a pas été démontré, à mon avis.
Il reste donc encore beaucoup à apprendre sur ce langage entre les plantes. Aujourd'hui, on étudie principalement les mécanismes de défense des plantes et pas forcément d'autres échanges d'informations plus subtils. Parce qu'évidemment, c'est ce qui nous intéresse, puisque notre alimentation dépend de beaucoup de plantes différentes. Mais vous avez remarqué, nous, les animaux, nous avons un cerveau. C'est là où sont centralisées les informations. C'est le cerveau qui nous dicte les actions à entreprendre. J'ai bien regardé. Mon ficus n'a pas de cerveau. Alors elles sont centralisées où, les informations chez les plantes ?
C'est souvent à l'extérieur qu'on répond le mieux, puisque le danger vient de l'extérieur. Donc chaque tissu, groupe de cellules est capable de manière autonome de répondre à n'importe quelle attaque. Donc lorsqu'une cellule est infectée, elle n'a pas besoin d'aller demander au cerveau ce qu'il faut faire. Elle a déjà tout l'outillage pour répondre et se défendre. Puis après, forcément, le système nerveux central, il n'y a pas besoin. Si vous blessez une feuille, la feuille voisine va répondre. Puis si vous faites ça dans l'autre sens, ça va répondre dans l'autre sens. Donc il n'y a pas de sens, vous voyez. Il y a juste une capacité à percevoir quelque chose et transmettre de l'information.
Et ces informations prennent donc la forme de molécules qui sont volatiles, qui diffusent dans l'air. Certains signaux diffusent dans le sol. Y en aurait-il d'autres ?
Des chercheurs, dont un collègue ici à Lausanne, a découvert qu'il y avait une transmission d'informations électriques à l'intérieur d'une plante. Il y a des signaux électriques qui se propagent. Notamment lorsqu'une plante est attaquée par un insecte, l'information circule dans d'autres parties de la plante. Le moyen de transmission, c'est un signal électrique. Donc en mettant des électrodes sur différentes parties de la plante, mon collègue a découvert qu'il y avait effectivement une transmission de courant électrique qui pouvait rapidement informer d'autres parties de la plante qu'il y avait un problème. Et on a découvert des canaux à calcium qui pourraient être impliqués dans cet échange d'informations.
Des canaux à calcium ? Moi, ça me fait quand même penser à un système nerveux. Nos neurones n'ont-ils pas aussi ce type de canaux quand ils transmettent le flux nerveux ? C'est quand même très proche, non ?
D'où un petit peu la controverse parmi les scientifiques, parce que tous les scientifiques qui parlent de communication chez les plantes et de neurones chez les plantes, finalement font des amalgames, essayent de mettre en avant qu'une plante, c'est un être humain comme nous, ce qui n'est pas du tout vrai. On fait des analogies, on fait de l'anthropomorphisme, mais en l'occurrence, c'est intéressant de voir que des signaux électriques sont échangés à l'intérieur des plantes par des mécanismes qui ressemblent à ce qui se passe dans les neurones. Mais ça peut être très bien une convergence évolutive qui fait que les mêmes solutions ont été trouvées pour faire fonctionner, pour transmettre de l'information. Ça ne veut pas dire que parce qu'une plante envoyait un signal électrique, c'est qu'elle a des nerfs. C'est juste un moyen physico-chimique de transmettre de l'information.
Les mécanismes évolutifs ont donc parfois mené à des solutions similaires pour des problèmes différents. Si ces canaux à calcium sont présents chez les plantes comme chez nous, c'est peut-être un hasard. Mais cette histoire évolutive, justement, certains végétaux sont plus complexes que d'autres. Leurs réponses face aux problèmes qu'ils rencontrent sont-elles plus élaborées ? Les nôtres de réponses, celles des animaux, elles sont différentes en fonction de la complexité de l'organisme. Un ver de terre ne réagit pas de la même façon face à un danger qu'un guépard.
On n'a pas assez étudié en profondeur pour répondre à cette question, parce que lorsqu'on observe une mousse très primitive, un bryophyte très primitif, il a déjà tous les gènes qui lui permettent de fabriquer des composés volatiles, d'échanger de l'information, de détecter ses ennemis. Donc, on a fait des travaux sur un ancêtre des plantes terrestres actuelles. On a vu qu'il était déjà capable de se défendre contre des chenilles qu'il mangeait. Donc ce qu'on voit, c'est plutôt une diversification des réponses. C'est que suivant les plantes, différents types de molécules, différentes familles de molécules sont fabriquées. Mais les principes fondamentaux sont toujours les mêmes, ils sont toujours là.
Ok, les plantes évoluent depuis longtemps, certes, mais les insectes aussi. Non mais sérieusement, la chenille, au bout d'un moment, elle doit quand même comprendre le coup du poison. Elle n'imprime pas qu'elle ne doit pas manger cette plante-là.
Beaucoup d'insectes s'adaptent aux composés chimiques de la plante, qui a tout un arsenal de protéines, de gènes qui permettent aux insectes de s'adapter au poison de la plante. Alors, ceux qui s'adaptent au poison de la plante, ils ont un avantage, parce qu'ils se spécialisent sur une plante, ils savent qu'ils sont adaptés, et ils mangent que cette plante. Donc, ça fait une nouvelle force, une pression de sélection contre la plante qui ne peut plus, finalement, se défendre contre cet insecte, il s'est adapté. Alors, il y a des exemples, c'est assez rare de voir des exemples où on connaît l'étape suivante, où une plante s'est adaptée au fait que l'insecte s'était adapté.
Le suspense est insoutenable. Quelle plante a réussi à faire ça ?
C'est des fleurs de la passion. Les fleurs de la passion, qui ont des très belles fleurs, qui sont utilisées beaucoup en jardinerie, eh bien, elles sont quand même assez vicieuses parce qu'elles contiennent du cyanure dans leurs feuilles. Ce qui fait que dès qu'un insecte mange une feuille, il y passe, il est raide mort. Mais, vu qu'il y a une coévolution, il y a une espèce d'insecte qui s'est adapté, qui est capable de tolérer ce cyanure. Donc, il a un mécanisme chimique qui fait qu'il stocke le composé de cyanure. Donc, il peut manger tranquillement cette fleur de la passion. Alors, il y a des chercheurs qui ont découvert en Amazonie des espèces de fleurs de la passion qui se sont adaptées à cet insecte-là. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont commencé à fabriquer des taches jaunes sur les feuilles qui ressemblent à des œufs d'insectes. Et comme les papillons qui posent les œufs sur les plantes, ils regardent toujours s'il n'y en a pas déjà qui sont déposés pour éviter de mettre trop d'œufs sur une plante, eh ben, ils se mettent à éviter cette plante en pensant qu'elle est déjà occupée par des œufs. Donc la plante, elle fait des imitations d'œufs pour se défendre contre son ennemi.
Et elle s'est adaptée en combien de temps ?
C'est des millions d'années peut-être, ou des centaines de milliers d'années, pour que par hasard, il y a des mutations qui apparaissent chez cette plante qui se met à fabriquer des petites taches jaunes, puis après ces petites taches jaunes, elle les modifie encore plus pour que tout à coup ça fasse un dôme, puis que ça ressemble à un œuf. C'est du mimétisme. Et ça, c'est assez fréquent dans la nature que des feuilles ont l'air, par exemple, d'être malades. Elles ont des taches blanches, des taches qui font des sortes d'informations qui informent peut-être un insecte ou un papillon qu'elle est déjà infectée par une maladie ou qu'elle n'est pas en forme. Ce mimétisme est, semble-t-il, efficace pour repousser son ennemi en utilisant des caractères visibles cette fois.
Trop fortes, ces plantes. Elles ont compris qu'elles sont regardées. Et elles connaissent même les goûts des insectes.
Toute la famille des choux fabrique ces composés hypertoxiques, les glucosinolates, qui sont à leur extrême dans le wasabi, parce que quand on mange du wasabi, on sent bien que c'est très piquant. Eh bien, c'est plein de composés glucosinolates qui sont des anti-herbivores, et nous sommes des herbivores, puisque nous mangeons ces plantes. Donc les plantes de la famille des choux, à l'origine dans la nature, elles étaient pleines de ces glucosinolates. Et cette famille des choux, elle est apparue il y a 80 millions d'années. Et puis, on a découvert récemment que certains groupes d'insectes, la pierrite du chou, qui est adaptée aux choux, elle a une enzyme dans l'estomac, dans le système digestif, qui lui permet de détoxifier ces glucosinolates. D'accord ? Donc les pierrites du chou et d'autres familles de ces papillons, ils peuvent manger des plantes d'Arabidopsis et de chou, ça ne leur pose aucun problème. On a pu remonter à l'origine de ces papillons. Ils sont apparus il y a 70 millions d'années. Donc il a fallu 10 millions d'années à certaines espèces d'insectes pour acquérir ce nouveau gène, cette nouvelle protéine qui leur permet de manger des plantes qui ont des glucosinolates. Donc l'évolution, elle va très très lentement.
Bon, le goût de chou, c'est pas terrible, mais c'est supportable. Les plantes qui sont vraiment toxiques, elles s'en sortent mieux dans l'évolution ?
Alors il y a un exemple des plantes de la famille des apocynacées, qui font des molécules très toxiques, des cardénolides, ça s'appelle. Ces molécules sont très toxiques parce qu'elles ciblent une pompe à sodium qu'on a dans les cellules. Tous les êtres vivants ont des pompes à sodium hyper importantes dans les cellules pour faire fonctionner les cellules. Donc quand ces insectes mangent ces plantes, leur pompe à sodium ne marche plus et hop, voilà. Donc certains se sont adaptés. Et ces mutations, elles ont été observées dans des 4 groupes d'insectes totalement différents, qui ne sont pas issus du même ancêtre. Ça veut dire que les 4 groupes d'insectes ont tous trouvé la même solution à ces composés toxiques. Donc ça veut dire que l'évolution, elle peut être convergente. C'est pas qu'un individu à l'origine a fait des mutations puis il les a transmis à ses descendants. Ça veut dire qu'il y a peut-être peu de solutions pour s'en sortir. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces insectes qui sont tolérants, eh ben, ils stockent ces composés toxiques dans leur corps pour se défendre contre les oiseaux qui les mangent.
Et les oiseaux, ils voient pas passer le truc.
Eh bien, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des oiseaux qui ont eu exactement les mêmes mutations dans leur propre assiette pour qu'ils puissent manger l'insecte qui lui-même stocke le composé toxique. Ce qui est incroyable, c'est que c'est exactement la même solution chimique, moléculaire, entre un insecte et même un oiseau qui mange cet insecte. Des fois, l'évolution, la porte est très étroite pour pouvoir passer.
Ces ressemblances entre les plantes et les animaux sont troublantes. Et c'est tentant de faire de l'anthropomorphisme. Mais mon ficus ne me parle pas. Il a quand même plein de choses à me raconter et à m'apprendre. Peut-être qu'il écoutera ce podcast, comme d'autres plantes chez moi.
Ce qu'on sait, c'est qu'elles peuvent percevoir des vibrations. Il y a des exemples qui ont montré que lorsqu'on appliquait des vibrations à une feuille, ben c'est finalement une réponse mécanique. Il y a des capteurs, des canaux mécano-sensibles qui vont répondre à ces vibrations, à ces mouvements. Elles peuvent répondre au vent aussi, mais ça c'est plus un problème de force physique. Donc on s'est beaucoup posé la question de savoir si elles étaient capables d'écouter de la musique et de répondre à la musique. Mais ça, je crois qu'un peu, de nouveau, ça c'est de la science-fiction, parce qu'il n'y a pas de raison de nouveau de répondre à de la musique. Une plante, elle n'a pas besoin de musique pour survivre.
Ni de mon podcast, alors. Inutile de leur parler.
Je ne leur parle pas et je ne les écoute pas.
Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Jusqu'où va le ciel? Pourquoi je n'ai que deux bras? Pourquoi je stresse? Quelle est cette toxine qui a contaminé mon repas? Où va la lumière quand j'éteins ma lampe? Que se passe-t-il quand je dors? Mon ficus essaye-t-il de me parler?
Je vais surtout l'arroser, mon ficus. En attendant vos questions éventuelles sur microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Et si cet épisode vous plaît autant que la nature qui vous entoure, partagez-le sur les réseaux sociaux. Philippe Raymond m'a dit hors micro que si mes plantes réussissent à survivre chez moi, c'est qu'elles sont super résistantes. Tout comme ceux qui m'accompagnent dans l'élaboration de ce podcast. Jérôme Nussbaum, son travail racinaire souterrain habille musicalement ce podcast. Mathieu Ramsauer, réalisateur, qui ploie mais qui ne rompt pas face aux aléas sonores. Et Jolie Fleur, coproducteur Grégoire Moll, qui, je le sais, me demandera si les plantes que je torture éprouvent de la douleur.
Une plante ne pouvant pas bouger, ça ne lui sert à pas grand-chose d'avoir mal. Si vous blessez une feuille, ben la plante, elle sait qu'elle doit réparer quelque chose. Elle n'a pas besoin, à mon avis, de la douleur pour le faire.
Et d'ailleurs, vous savez que j'avais fait un épisode sur la douleur ? Si vous l'avez loupé, ou si vous souhaitez découvrir d'autres petits mystères ou grandes réponses scientifiques, vous pouvez vous abonner à Microscience sur l'application Play RTS, Spotify ou Apple Podcasts.